France Inter, franceinter.com.
CO2 mon amour, avec Gamard, dermocosmétique adulte bébé, certifié bio et 100% d'origine naturelle, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 de mon amour, l'émission qui empêche de polluer et de réchauffer en rond, en tout cas qui essaye, avec aujourd'hui Serge Viguier et Christophe Papon à la technique, et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Maïté Adam qui réalise cette émission. Avec une petite humeur et un grand ouf de soulagement parce que la sixième grande extinction des espèces dont l'homme fait partie, le changement climatique, la pollution, les pesticides, les PCB dans les fleuves, la crise financière, depuis le temps qu'on cherchait le coupable, eh bien ça y est, on l'a trouvé. D'après l'enquête menée par une équipe de chercheurs américains et publiée dans le magazine Nature, eh bien tout ça c'est la faute à Tiktaalik. Vous me direz, qui c'est celui-là? Eh bien Tiktaalik, je vous le présente, c'est un gros poisson, 4 à 9 pieds de long, l'air plutôt sympathique, le squelette bien conservé pour son grand âge, 375 millions d'années quand même, ce qui va nous chercher dans le dévonien supérieur si ma mémoire nourrie d'oméga 3 est bonne. D'après les chercheurs donc, Tiktaalik est un poissonopode, le chaînon manquant entre les poissons et les premiers animaux terrestres, un chatouilleux de la nageoire pectorale qui n'a qu'une idée en tête, sortir de l'eau. Sauf que pour se faire pousser les papates, des poumons et un cou, il faut savoir patienter quelques millions d'années. Alors au dévonien supérieur, voyez-vous, les manipulations génétiques, le créationnisme, Sarah Palin et le reste, on ne connaît pas. Alors comme dirait Darwin, une seule solution, l'évolution. Un grand merci donc à notre ancêtre à tous, reptiles, oiseaux, mammifères, requins de la finance et autres lauréats des prix Nobel de l'économie. Et pour les dégâts causés à la planète par ses descendants à deux pattes, du genre accro aux billets verts, au pétrole, à la testostérone, Tiktaalik, eh bien on l'excuse. Mais oui, il ne pouvait pas se douter la gueule que nos sports favoris ce serait la roulette boursière, les petits trajets en voiture, les sauts de puce en avion, l'ascension du Mont Ventoux en vélo en moins d'une heure ou bien la pêche au gros. Aujourd'hui, la grande boucle est bouclée. Sur la terre ferme, il y aura bientôt trop de monde et dans les océans, plus assez de poissons. Ou bien alors, quelques requins sans ailerons et les amateurs ne pourront même plus faire de soupe. Alors, les rejetons de Tiktaalik finiront bien par casser ce beau jouet qu'est la Terre. Alors, soyons quand même tout à fait optimistes, parce que malgré la mise à sac de la planète, les A65, autoroutes inutiles et hors de prix, la preuve ces derniers jours, on voit le Japon et l'Espagne qui votent pour sauver le thon rouge, l'Europe qui investit dans l'hydrogène, nos députés qui plébiscitent la première loi du Grenelle, sans compter Alan Greenspan, ex-patron de la réserve fédérale américaine, qui reconnaît que la loi du plus riche n'est pas toujours la meilleure. Une révolution chez cet homme qui a encouragé les subprimes, on le rappelle. Alors ah oui, j'oubliais, nos amis chercheurs pensent qu'avec son oreille particulièrement évoluée, notre brave poissonopode, quand il sortait la tête de l'eau, savait déjà écouter la différence, ici. Et si Tiktaalik c'était aussi votre ancêtre, notre ancêtre à tous, auditeurs modernes de France Inter? Frédéric Denry est avec nous, on va parler donc de la pêche dans quelques instants. Jean-Marie Pelt nous rejoindra et là évoquera donc lui aussi à sa manière donc la crise financière. Je sais pas, petite parenthèse que je vous fais quand même, parce que j'ai failli faire mon petit papier d'introduction sur le parcours du Tour de France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Monaco, ville de départ en 2009, Andorre, donc déjà deux paradis fiscaux. Ils sont dans le coup les gens du Tour de France. Et oui, absolument, ils ont absolument tout compris, c'est formidable. Voilà, bonjour Frédéric Denry.
Bonjour Denis Fils.
Alors Frédéric Denry, vous avez écrit déjà un certain nombre d'ouvrages qui s'appellent, alors c'était l'Atlas du réchauffement climatique, c'était La nature, combien ça coûte, d'autres joyeusetés aussi quand même sur l'empoisonnement un peu chronique dans lequel malheureusement...
Pollution invisible.
Et puis donc plus de poissons à la criée. Et vous avez quand même coutume de dire que en fait c'est pas forcément la planète qui va mal, mais ce sont nos comportements.
Ah bah oui, c'est typiquement ça. La pêche va mal depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, allez, au maximum, depuis qu'on a subventionné à fond perdu les bateaux pour qu'ils deviennent plus gros, plus forts, plus puissants, qu'ils puissent aller plus loin, plus longtemps, pêcher plus profondément pour grappiller tout ce qui restait, tout ce que les pêcheurs d'avant n'avaient pas pu grappiller. On a dépensé des milliards d'euros pour diminuer la probabilité que le peu de poissons qui échappaient au filet y échappent encore. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec des prises qui sont identiques d'une année à l'autre, qui commencent à baisser, alors que la technologie ne peut plus permettre d'aller plus loin. On était dans l'épaisseur du trait. On a donc, en conséquence, tout pêché. Donc, le fait que ça commence à baisser prouve qu'il y a vraiment plus grand-chose à pêcher et qu'il faudrait donc revoir au moins la politique de subvention européenne sur la pêche. Les problèmes d'environnement ne sont que des problèmes de société et là on est confronté à des choix de société qu'il va falloir quand même résorber.
Frédéric Denry, lorsque l'on parle de cette mer, elle appartient à qui initialement ?
À personne. C'est le droit romain, c'est res nullius et res communis. La mer n'appartient à personne et les ressources naturelles n'appartiennent donc à personne, si ce n'est au premier qui se l'approprie. Ça, c'est très. Donc, c'est du droit romain. C'est resté dans notre esprit, fondamentalement judéo-chrétien, mais voilà. Et ce qui fait que pour un pêcheur, le droit normal, le droit des hommes normaux, des terrestres, ne s'applique pas, bien évidemment. Vu que les ressources sont là, les ressources n'appartiennent à personne. Donc, c'est au premier qui arrive sur la zone de pêche que reviendra un maximum de poissons. Donc, c'est cette course aux poissons, encouragée par l'augmentation de la capacité de pêche, subventionnée par le contrat, qui est à l'origine de cette catastrophe qui, je le répète, ne date que de 20 à 30 ans, qui est un peu concomitante avec l'arrivée de cette économie stupide qui est soi-disant en train de s'effondrer maintenant.
Merci à vous Frédéric. Donc on reviendra dans quelques instants évidemment sur ce thème. Et puis on va écouter Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt avec son appréciation, on va dire, de la crise financière. Ce sera juste après Thomas Dutronc. On en a besoin aussi.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard. Une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Mythique, pornographique et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones. Je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus compte. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Je suis à faune, j'ai plus de neurones. Je tombe de mon trône quand t'es pas là. Mythique, pornographique et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte. La bébête qui monte quand t'es pas là. Je n'existe pas. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Une normande sans armoire.
Eh bien c'est la fin de cette chanson, nous retrouvons qui ?
Jean-Marie Pelt.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Voilà, et comme cet air guilleret, eh bien nous allons en profiter, Jean-Marie, car on va parler bien sûr un petit peu de cette vague crise qu'on ne veut pas appeler crack d'ailleurs. Comment vous avez regardé cela et comment vous continuez à analyser cette affaire ?
Bah écoutez, je me suis souvenu que dans mes conférences depuis quelques années, je dis le communisme s'est effondré avec grand fracas, personne aurait imaginé que ce soit possible. Je disais le capitalisme peut s'effondrer avec le même fracas et ça paraissait invraisemblable, mais j'ai senti venir ça, j'ai senti venir et je l'ai vécu avec une certaine stupeur, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est le retournement subit de la manière de penser de tout le monde. Et le retour brutal du politique dans un monde où tacitement il était admis que les économistes et les financiers font marcher le monde et les politiques font des discours. C'est comme ça que le monde a marché jusque-là. Et tout d'un coup, les phrases et les mots qui ont été dits et redits et redits, mondialisation, globalisation, ultralibéralisme, déréglementation, dérégulation, surtout ne toucher à rien, tout se règle tout seul, la main invisible d'Adam Smith, tu cherches ton profit, tout le monde en fait autant, tout est libre tout seul. C'était ça l'idée. Eh bien, cette idée est fausse, ça n'a pas marché. Donc il faut éteindre l'incendie, hein, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, et puis reconstruire une autre maison. Et moi, j'aimerais que la maison soit un peu différente.
Jean-Marie, si on met un peu face à face, on va dire, crack financier et crack écologique, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut, il faut vraiment tout faire autrement. Je prends un détail qui m'a horrifié. On a sauvé, donc, avec grand fracas, la banque Fortis. Ils ont été faire la fête à Monaco. Ils ont dépensé 150 000 euros pour un repas. Bon, ça montre...
Pour les c'était des clients, pour les soigner.
C'était des bons clients.
Voilà.
C'était des bons clients. Mais ça montre qu'on a perdu raison, quoi. D'une certaine manière, on a un peu perdu les pédales avec l'argent. On n'a plus de limites. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve vraiment des limites. Et que par conséquent, on se souvienne que dans la Charte du développement durable de l'ONU, à l'article 3, il est dit « les ressources de la planète doivent être équitablement réparties ». Donc cette idée d'équité devrait réapparaître. Moi, je suis très frappé. Quand j'ai fait la dernière campagne électorale de Robert Schuman, j'ai fait la campagne avec lui, c'était en 58, il y avait deux thèmes, on parlait de ça partout dans les bistrots, Europe et justice sociale. L'idée de justice sociale s'est évaporée du discours politique. Il n'y a plus personne, ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ni ailleurs, qui parle de justice sociale. Alors, on a oublié que c'est une valeur. Et puis, l'Europe, on dit que ça ne marche pas. Bon, mais on voit qu'on a eu besoin d'Europe, là. Parce que s'il n'y avait pas eu d'Europe, là, on était effectivement dans le mur. Et de la justice sociale, on va s'apercevoir qu'on en a besoin. Parce qu'on ne va pas pouvoir vivre toujours plus riche, mais on va essayer de faire toujours mieux. Et si on fait toujours mieux, eh bien, dans le mieux, il y a aussi un meilleur partage. Et ça, c'est le fameux volet social du développement durable. Et alors, en ce qui concerne l'écologie, moi, je ne voudrais pas qu'on enterre l'écologie en disant « Oh là là, il y a urgence sur le plan économique, l'écologie, on verra plus tard ». On n'a pas le temps de voir plus tard. On est obligé d'y aller tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut tout faire à la fois. Et comme dit Sarko, d'ailleurs, il dit « fais tout à la fois ». Ce qui est vrai, il fait tout à la fois. Parfois, les choses sont au contraire, quand il va très vite. Mais là, il va falloir faire à la fois une économie vraiment différente, je pense, plus sociale, sûrement, plus juste avec les pays du Sud. Et puis, sur le plan de l'écologie, il faut qu'on y aille carrément et qu'on ne baisse pas les ambitions affichées par l'Union européenne.
On a eu une financiarisation du monde, Jean-Marie Peul, qui a été quand même assez obscène, faut le dire, qui joue avec de l'argent virtuel. Et puis, de l'autre côté, on a une société qui a l'impression d'être virtuelle aussi parce qu'elle ne s'appuie plus sur ce qui se passe sur le sol. Une société un peu hors sol. Et donc là aussi, il va falloir remettre les pieds sur terre au sens propre comme au sens figuré.
Oui, alors peut-être qu'on va revenir à l'idée de relocalisation. Peut-être qu'on va revenir davantage à l'idée de territoire, c'est une belle idée. Peut-être qu'on va revenir à l'idée d'autonomie alimentaire dans les pays du Sud. Peut-être qu'on va enterrer l'idée que les pays du Sud doivent fabriquer des haricots verts pour les pays riches, quitte à crever de faim chez eux. Je ne sais pas, je crois que tout ça va changer et qu'on va essayer de ne pas rater le tournant. Puis on fera ce qu'on peut pour ne pas rater le tournant.
Alors, ça veut dire que là aussi, il faut trouver un équilibre, qui est d'ailleurs la règle de l'écologie.
Il faut aller vers un nouvel équilibre. Moi, j'ai entendu, il y a quelques jours à la télévision, M. Soros, qui est un homme d'affaires et qui gagne beaucoup d'argent parce que lui, il sait jouer à la bourse. Il y a plein de gens qui jouent à la bourse et qui ne savent pas. Lui, il sait.
Quand ça monte, quand ça descend, de toute façon, il gagne.
Il gagne toujours. Il gagne toujours. Et bon, il sait y faire. Alors, il a dit, moi, je n'ai jamais cru à la mondialisation, à la globalisation, à la dérégulation, à la déréglementation, à la main invisible qui régule tout seul, comme si le monde économique était régulé par la seule nature des choses, par son seul fonctionnement, c'était la régulation. Il a dit, nous ne sommes pas assez intelligents pour ça. Par contre, la nature, elle l'est. La nature, elle se régule toute seule. La nature est en équilibre, mais la nature est plus intelligente que nous. Je trouve ça superbe. Oui. Venant d'un grand économiste, je trouve ça superbe.
Oui, parce que donc là, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que la nature a toujours fonctionné comme ça.
Voilà. Ben, la nature, elle fonctionne en fonction de règles qui durent depuis des millions d'années. Elle fait du recyclage. Elle n'a pas une croissance infinie, indéfinie. Il n'y a pas un arbre qui monte jusqu'au ciel. Il n'y a pas de milliardaires dans la nature. Il y a des limites partout. Voilà, chez nous, il n'y a pas de limites. Enfin, nous sommes quand même la première génération de l'histoire de l'humanité où on peut devenir milliardaire en 5 ans. Ça n'est jamais arrivé. D'habitude, quand on faisait millionnaire et pas milliardaire, il fallait qu'il y ait déjà 4 générations derrière. Mais là, on a été vraiment à fond, sans aucune limite nulle part. Voilà, et maintenant, la maison brûle, donc il faut éteindre l'incendie. C'est pourquoi j'estime que ce qu'ont fait les chefs d'État, c'était bien, que l'Europe a été remarquable, que notre président de la République s'est bien débrouillé. Et puis après, quand l'incendie est éteint, on regarde les ruines un peu partout et on reconstruit autrement. On fait une autre maison.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire, voilà, et d'accompagner ce mouvement.
Exactement.
Merci Jean-Marie Pelt.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Body shambai salva nya mai, Omar. De takitim body shambai, body shambai spianya terra, body shambai salva nya mai, Omar. Marazu, subi mansinho. Lua cheia, lume em caminho, para banhar-te, anime, São Vicente, pequenino, para me abraçar, me acreditar. Mar azul, sob mansinho, lua cheia, lume em caminho, para banhar terra e meu, São Vicente, pequenino, bamba abraça, me acredito. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a miose na terra nos, o mar. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a miose na terra nos, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, pa banhar terra de meu, São Vicente, pequenino, me abraça, me acredito. Mar azul, subi mansinho, no washing lo mian kami. Pequenino pamba abraçar minha creche.
Après Cesaria Evora, pays de pêcheurs aussi également, donc dans ce Cap Vert, je vous lis donc un extrait de l'ouvrage de Frédéric Denry, donc Plus de poissons à la criée, chez Delachaux et Niesley. La pêche va mourir dans un silence consterné et parce qu'il y aura toujours un peu de poisson et beaucoup de surimi dans les cantines, on l'oubliera. On se souviendra juste en allant à Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer ou à Océanopolis, à Brest, que les poissons furent longtemps trop pêchés par trop de chalutiers. On se souviendra en visitant le musée des Terre-Neuve à Fécamp que la pêche fut un grand métier et ça l'est incontestablement. C'est aussi d'ailleurs un des métiers les plus dangereux du monde, il faut le dire. C'est un métier fait de fierté, fait de, qui a ses propres codes et qui évidemment ne va pas très très fort aujourd'hui. Alors on ne va pas vous asséner de chiffres, mais si on fait le constat, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, avant de pouvoir parler effectivement d'avenir avec vous, qu'est-ce que l'on peut dire Frédéric Denry sur le constat?
Le constat est simple, il n'y a que un quart des stocks, c'est-à-dire des populations de poissons qui font l'objet d'une pêche commerciale, il n'y a qu'un quart donc des poissons qui sont correctement pêchés. La moitié, donc 50% des stocks sont pêchés au maximum de leur capacité reproductive, c'est-à-dire qu'on pêche à peu près juste ce qui est reproduit. Et puis, il y a un autre quart, donc 25% des stocks de poissons qui sont trop pêchés et qui, eux, sont quasiment condamnés à la faillite, c'est un terme à la mode, si on continue.
Compter les poissons, on va vous dire que ce n'est pas forcément très très simple. Hein. Comment sait-on qu'un stock est menacé?
C'est un peu au doigt mouillé, mais quand même un doigt mouillé qui, mouillé depuis 30 ans, révèle toujours la même tendance. Alors comment on fait? Très grossièrement, on mesure une année le nombre d'alevins, de petits. On en déduit, parce qu'on connaît la biologie du poisson, le nombre d'adultes qu'il y aura l'année d'après. Et entre les deux, on arrange le chiffre en fonction de ce qui a été effectivement pêché, de ce qui a été effectivement débarqué. Voilà, on fait une cote mal taillée, on aboutit à ce qu'on appelle des totaux. On aboutit à un stock. Voilà, le stock, c'est la population pêchable. À partir de là, on calcule un total autorisé de capture. Et ce total autorisé de capture, c'est un gros gâteau qu'on découpe en tranches. Et chaque tranche est assignée à un pays. Et puis ensuite, les pêcheurs sont censés respecter cette tranche qui n'est jamais respectée.
On a toujours l'impression avec cette pêche où on s'est dit on a toujours des quantités infinies de poissons, alors que l'on commence à comprendre fort heureusement que l'on est dans un monde fini, que c'est une belle métaphore de ce qui se passe dans le monde, en fait, c'est ces histoires de pêche.
Mais la pêche, c'est, oui, c'est une métaphore. C'est à la fois le symbole et l'objet, la conséquence d'une économie folle, comme l'a dit Jean-Marie Pelt, une économie artificialisée, une économie hors sol, une économie qui n'est plus, ouvrez un ouvrage d'économie actuellement, qui n'est plus qu'une série de théories mathématiques. Ce n'est plus une science humaine, l'économie. Et bien, la pêche, ça n'a jamais été une science biologique. C'est une science de gestion basée sur des théorèmes mathématiques que moi, j'ai appris en fac, hein, les formules de von Bertalanffy. On considère le poisson comme un élément comme un autre, on lui applique un théorème mathématique, on en oublie que ce poisson, il a un prédateur, il a des proies, il a un écosystème. On en oublie que l'espèce, c'est un réseau de relations. Et avec cette gestion purement mathématique, évidemment, on ne me remet pas en cause ce qui est fondamental dans notre esprit judéo-chrétien, cet esprit que le poisson, c'est une manne céleste, qu'il suffit de plonger la main sous la surface de la mer, hein, qui, je le rappelle, dans notre esprit aussi, la mer a lavé nos péchés lors du déluge. Donc, mais Dieu, pour compenser, a inventé le poisson afin de nourrir les hommes et surtout qu'ils puissent faire pénitence un jour sur trois de l'année. Et donc voilà, pourquoi croire que Dieu a pu mégoter sa manne? Donc la manne est infinie.
À part qu'aujourd'hui, donc, la multiplication des poissons est un peu finie, maintenant on est plutôt dans la soustraction des poissons. Alors c'est intéressant que vous nous parliez aussi donc, du syndrome de Terre-Neuve. La morue, donc le cabillaud, a été évidemment pendant trois siècles, au début du XVIIe siècle, on a vu naître cette civilisation donc, de la morue avec ce grand métier, je le rappelle, avec beaucoup de fierté donc, qui est derrière. C'était d'ailleurs des conditions tout à fait
épouvantable. Absolument terrifiant. Mais c'est révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Ça devrait quand même nous alerter. Racontez-nous un peu le phénomène.
Alors, c'est oui, 3 siècles. Si on étend à la découverte des bancs de Terre-Neuve, c'est 5 siècles. Alors, pendant 5 siècles, surtout 3 siècles, la pêche à la morue dans les eaux de Terre-Neuve, surtout à Terre-Neuve, moi en Islande, la pêche à la morue a nourri l'Europe. Elle a évité que les disettes et les famines ne deviennent trop graves. Elle a permis de respecter ce que demandait le curé, à savoir de manger tous les vendredis du poisson. Ça a été fondamental. Mmh. Ça a permis de découvrir les routes vers l'ouest, vers l'Amérique. Ça a lancé toute l'industrie du sel en Europe. Ça a été quelque chose de... C'est un des piliers de la civilisation européenne, la pêche à la morue. Ça a duré 5 siècles. Et la pêche à la morue a été littéralement détruite par la surpêche en 20 ans.
Oui.
À partir du premier chalutier industriel en 1954, dans les années 60, on a eu non plus un chalutier industriel, mais des chalutiers industriels qui chassaient en meute, véritablement, avec des techniques de chasse à la meute. Et j'ai deux chiffres sous les yeux, entre 1960 et 1994, les quantités remontées de morue dans les eaux de Terre-Neuve ont diminué de 97%. Entre 1982 et 1992, les quantités avaient baissé de 80%. Donc c'est très symbolique de ce qu'est l'économie. Tout s'est effondré en une vingtaine d'années parce que on considérait déjà la pêche comme quelque chose, le poisson comme quelque chose d'infini, mais en plus, on s'est donné les moyens d'aller vers cet infini. Oui. Le résultat est
C'est-à-dire
là.
C'est-à-dire que dans les années 80, vous l'avez déjà effectivement dit un peu tout à l'heure, mais juste pour le développer un tout petit peu plus, dans les années 80, on voyait effectivement que les prix du poisson stagnaient. Alors on s'est dit, non, c'est pas ce qu'on va faire, c'est vous donner d'autres moyens pour aller pêcher plus vite, plus loin, plus profond.
C'est exactement ça. Dans les années 80, ça commençait à stagner, à baisser. Donc, on aurait dû se dire qu'il y avait peut-être quand même un souci au niveau des stocks. Mais non, les pêcheurs ont dit, mais les scientifiques se trompent comme d'habitude. Les gens de Bruxelles n'y comprennent rien. Et les politiques, avec le courage qu'on leur connaît, ont dit, mais bien entendu, combien voulez-vous? Ben voilà, ça fait autant. Et on a financé la surcapacité de pêche. On a financé la capacité de pêche des bateaux. Donc, on a fait des bateaux plus gros, mieux motorisés, pouvant aller plus profond, plus loin, plus longtemps. Ça ne pouvait tenir que pour un coût très faible du gasoil, et ça ne pouvait tenir que s'il y avait des choses à remonter. Or, on se retrouve actuellement avec des bateaux démesurés par rapport au prix du gasoil et par rapport à ce qu'ils peuvent remonter. Donc, les bateaux sont en surcapacité permanente. Et comme ils sont en surcapacité, ils sont en situation ils sont incapables d'atteindre leur rentabilité économique, donc ils sont obligés de surpêcher simplement pour pêcher la facture de gasoil. Donc les pêcheurs, si tant est qu'ils avaient respecté un tant soit peu les quotas avant, sont obligés pour vivre de ne pas respecter les quotas. C'est aussi simple que ça.
Oui, et d'où effectivement tous les désespoirs que l'on connaît.
Et oui.
Alors la mer rugit toujours, mais Pierre Loti ne chante plus forcément pêcheur d'Islande. Il y a un homme qui a toujours défendu cette pêche. C'est un Breton, un homme que vous connaissez, qui Yann Kefelec. Et voici ce qu'il disait dans le zapping de France Inter.
Vraiment, je voudrais dire solennellement que je me solidarise avec la façade maritime française, qu'elle soit bretonne ou qu'elle soit méditerranéenne. J'ai l'impression que ce pays ne cesse de tourner le dos à la mer, alors que finalement, tout ce que la mer a pu lui rapporter, à la fois de prestigieux et d'économiquement passionnant, eh bien, c'est vraiment à la mer qu'elle le doit. Moi, je suis absolument outré que je me promène en Normandie ou en Bretagne, là, pour le coup, par exemple, de voir ces immenses ports totalement désertifié, ces espèces d'économies locales qui n'existent plus, ce maillage villageois qui est en disparition totale, chaque petit patelin attendant que le TGV dépose à sa porte son avenir et un avenir meilleur. C'est absolument grotesque. Nos amis portugais continuent d'avoir des pêcheurs, l'Espagne continue d'avoir des pêcheurs, les Anglais continuent d'avoir des pêcheurs, et chez nous, comme par hasard, avec la façade maritime dont on dispose, on considère que c'est scandaleux, qu'il faut faire du cochon, qu'il faut faire de la culture, mais certainement pas pêcher. Et si quand on dépasse théoriquement donc les quotas de pêche, immédiatement, les Sétois se retrouvent sur le point de faire dans l'obligation de cesser leurs activités. Donc je pense en effet qu'on est allé un peu trop loin dans la croissance, que le progrès systématique sur l'idée qu'on s'en fait n'est pas forcément un progrès et que les voies du bonheur sont peut-être à explorer ailleurs.
Voilà, donc Yann Kefelec, évidemment breton, un homme qui connaît bien ce domaine-là, c'est assez beau en fait et en même temps assez fort ce qu'il disait.
Ben oui, mais moi ça me fend le cœur d'en vouloir part aux pêcheurs, parce que je les aime, les pêcheurs. Bah oui. Les pêcheurs sont nos seuls marins, ce sont les seules personnes qui connaissent la mer en France. On a la plus grande façade maritime de France, on est la troisième puissance maritime du monde en termes de zone économique exclusive, on est le pays le moins marin, on est un pays de paysans qui se fout totalement de la mer. Mmh.
C'est vrai que l'histoire de France est assez terrienne en plus.
Ah bah l'histoire de France est terrienne, la richesse de la France est venue de la terre, les ennemis sont toujours venus de l'Est et la seule fois où les Anglais ont été empêchés d'arriver sur terre, sur le continent, c'est parce qu'on a eu une flotte à la fin du XIVe siècle qui a pu débarquer en Angleterre. Voilà, donc notre seule gloire maritime repose sur les pêcheurs et les pêcheurs on les a laissés faire parce que nos dirigeants ne se sont jamais préoccupés de la mer. Donc aussitôt qu'il y en a un qui brûlait un pneu, on lui signait un chèque, on lui a jamais parlé comme un adulte. On l'a infantilisé, c'est comme ça que je vois les choses, en déversant un tombereau de subventions, comme on fait pour d'autres corps de métier, pour qu'ils se taisent. On a acheté la paix sociale en prétendant qu'ainsi on allait respecter l'aménagement du territoire, parce que les pêcheurs sont peu nombreux, il y a une dizaine de milliers de pêcheurs en France, mais ce sont eux qui aménagent le littoral. S'il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a plus que des thalassos, quelques hôtels de luxe.
Et les marinas.
Et des marinas.
La promotion mobilière.
Voilà. Sauf que, non, on ne leur a pas parlé comme des adultes, on n'a pas fait ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'ont fait les Danois, par exemple, ou les Américains. On a laissé faire les pêcheurs. On a laissé faire les pêcheurs et maintenant les pêcheurs ont totalement scié la branche sur laquelle ils étaient assises. Mmh. Et on finira par arriver à ce que les politiques peut-être voulaient éviter, à savoir une désertification des côtes faute de pêcheurs.
On va poursuivre ce voyage, mais d'abord je vous propose peut-être un petit disque. Oui, allez.
Il était une fois un poisson fin. Il aurait pu être poisson si... ou ré, ou sol, ou tout simplement poisson d'eau, ou même un poisson un peu lard. Non, non, il était poisson fin, un poisson fin, voilà.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
C'était juste un extrait, hein, comme ça, avec Maïté Adam. On s'est dit, on va quand même pas vous passer la maman des poissons, hein, au premier degré. Donc on s'est dit, un troisième degré avec le poisson fin, qui est quand même beaucoup moins connu que Bobby Lapointe. Ce que je vous propose, c'est peut-être aussi de faire un petit tour dans un autre domaine. Ça va nous permettre de rester dans le sujet avec l'aquaculture. Alors, l'aquaculture, on va aller avec Sophie Le Doré, qui a réalisé ce reportage du côté de Gravelines, dans le Nord, fortifié par Vauban, certes, mais on va se retrouver à Aquanor, qui est la plus grosse ferme d'aquaculture marine en France. Et dans cette ferme-là, eh bien, on élève du bar et de la dorade, donc 2500 tonnes de poissons. Et le concept, c'est-à-dire que cette société bénéficie de l'eau de mer qui est chaude, qui sort de la centrale donc, électrique d'EDF. Les poissons ne sont pas radioactifs, hein, je vous rassure. Les poissons sont des animaux qui ne régulent pas leur température. Leur métabolisme donc, dépend complètement de la nature et de leur environnement. Et donc, on bénéficie de cette chaleur. Donc visite dans cette ferme, puis après quelques mots bien sûr sur l'aquaculture.
Donc en face vous avez la centrale avec effectivement l'eau chaude qui ressort et ces fameux tuyaux qui nous amènent de l'eau chaude, de l'eau froide afin de nous permettre ensuite de faire un mélange et de réguler la température. Et on va essayer tout au long de l'année de maintenir la température la plus constante au niveau de nos élevages. Bien sûr, en hiver, on descend, mais on maintient une température suffisante pour que la rentabilité au niveau de notre élevage soit préservée, même pendant l'hiver, où c'est une période, normalement, on ne devrait pas avoir de production. Mais grâce à cette eau plus chaude, on va quand même maintenir une croissance de nos animaux. On a réussi sur la ferme de Gravelines à recréer pratiquement des cages à terre, c'est-à-dire qu'on a construit d'immenses bassins qui font 4 mètres de profondeur, qui font au total 1000 mètres cubes, dans lequel on va élever à peu près entre 40 et 50 tonnes de poissons. Donc c'est des bassins qui vont permettre de faire grossir les poissons jusqu'à 1,5 kg pour les plus gros, ce qui va nous prendre entre 24 et 30 mois. Une fois qu'on a de l'eau de mer dans nos bassins, il va falloir commencer à les remplir. Donc on reçoit les poissons à l'âge de quelques mois, quand ils vont faire entre 2 et 4 grammes. Et on va commencer par les mettre dans des bassins dont la dimension est adaptée à leur taille. Au fur et à mesure de leur croissance, en fait, on va les transférer vers des bassins de plus en plus gros. Et on va essayer également de les trier de façon à maintenir une homogénéité dans les tailles, de façon à ce qu'on n'ait pas des gros qui bouffent les petits. Et on va le faire comme ça 3-4 fois tout au long de leur vie. On va pêcher les animaux, les trier, ça va nous permettre de les compter en même temps. Et ensuite, on va les répartir dans des bassins de plus en plus gros.
À
Alors, on est là dans la ferme 1, donc c'est une ferme sous une charpente en bois, ce qui permet effectivement de garder un peu la chaleur et d'éviter que les calories partent à l'extérieur. Donc, on a des bassins sur lesquels on va avoir les juvéniles, et je vais vous montrer comment on les nourrit ou comment ils se nourrissent eux-mêmes, puisqu'on a mis en place des self-service pour les petits. L'idée, c'est que dans cette phase-là, il faut absolument que nos alevins mangent à satiété, de façon à éviter de manger les copains. Pour être sûr que l'alimentation est constante, on a mis en place des systèmes qu'on appelle les auto-feeders, donc des distributeurs automatiques de nourriture, qui sont en fait un cône qui est disposé au-dessus du bassin, dans lequel on va mettre des granulés, dont la taille est adaptée effectivement à celle de la bouche du poisson. Et donc ils viennent chercher la nourriture quand ils en ont envie ou quand ils en ont besoin. On a des granulés qui sont des petites boules comme un peu de la semoule, dans lequel on va retrouver effectivement ces 50% ou ces 40% d'huile de poisson, de farine de poisson. On va retrouver également de l'huile de lin par exemple, l'huile de lin étant une des huiles les plus riches en acide oméga 3. On va retrouver également, puisque c'est une société qui fabrique ça en France, des espèces de pois qui sont produits en Flandre et qui vont être intégrés pour leur qualité nutritive en termes de protéines également.
On parle aussi beaucoup des traitements, des antibiotiques. Qu'est-ce qu'on donne clairement en termes d'intrants à ces poissons?
Alors, la politique qu'on essaye de mettre en place ici, c'est de travailler sur des vaccinations. À la sortie de l'écloserie, on va essayer de les vacciner en travaillant sur des auto-vaccins, c'est-à-dire que les services vétérinaires, notre vétérinaire va fabriquer ou va faire fabriquer un vaccin directement adapté aux pathogènes que peuvent rencontrer les poissons sur notre élevage. Donc on va avoir une première phase lorsqu'ils vont avoir 2 grammes, donc de vaccination, de façon à justement éviter d'être obligé de traiter avec des antibiotiques. Et on va avoir une deuxième vaccination qui, elle, va se faire manuellement lorsque le poisson commence à avoir 60 grammes. Alors maintenant, effectivement, on utilise, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, on va utiliser des antibiotiques pour soigner les poissons, mais un peu de la manière dont on fait avec les humains, c'est en disant que ce n'est pas automatique. Il y a toujours eu des maladies dans les élevages. C'est vrai que lorsqu'on concentre du poisson, on va augmenter le risque de contamination, un peu comme chez les hommes, lorsqu'on les concentre dans le métro, on augmente le risque de transmission de la grippe ou n'importe quelle maladie. Par contre, ce qu'on se rend compte depuis quelques années, c'est qu'on assiste en fait à une augmentation de la virulence de certains organismes qui vivaient jusqu'à présent en bonne intelligence avec les poissons, même dans des élevages. Et on s'aperçoit que des organismes qui, il y a 3-4 ans en arrière, n'étaient absolument pas pathogènes, se sont révélés en fait nuisibles et qui deviennent pathogènes, qui deviennent mortels dans des conditions d'élevage qui n'ont pas évolué. Donc on est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une modification de l'environnement marin qui provoque ces changements. Donc là, il y a un gros travail de recherche et c'est malheureusement pas dans nos moyens de se lancer dans des analyses. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre le phénomène et d'y répondre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre objectif, c'est de produire du poisson et de façon économique. Donc si on s'amuse à dégrader notre environnement ou à dégrader l'environnement dans lequel on met nos animaux, ces animaux-là vont effectivement soit être victimes de surmortalité, de surpopulation, soit ils vont grossir plus lentement. Donc on n'a aucun intérêt d'un point de vue économique à maltraiter nos animaux.
Alors, il y a des poissons morts en surface, ça correspond à quoi?
Ça correspond en fait à des cycles de vie un peu normaux comme n'importe quel organisme vivant. On a à peu près 7 millions de poissons sur la ferme, de tous âges. Vous imaginez bien que, comme n'importe quelle population, on a des animaux qui vont mourir. On a 2-3 poissons, effectivement, qui peuvent flotter ça et là. L'inconvénient d'avoir une ferme à terre, c'est qu'on le voit tout de suite. Donc, effectivement, c'est un peu plus choquant que ce qui se passe dans la mer, mais c'est le même phénomène. Il faut savoir qu'en mer, les mortalités peuvent être effectivement colossales. La seule différence, c'est qu'on s'en apercevra pas.
C'était Max Paladin, qui est le directeur de la plus grosse ferme aquacole marine de France, donc Aquanor, au micro de Sophie Ledoré. Et nous en reparlons dans quelques instants aussi de l'aquaculture, en disant tout de suite que cet homme-là sait que ce n'est pas la solution, mais que c'est un complément et rien de plus. Voici Perséphone Bess.
«
C'était Perséphone Bess sur France Inter, C'est haut de mon amour avec Frédéric Danhé. Petite réaction sur l'aquaculture. Donc Max Paladin le sait, c'est pas du tout cela qui va remplacer donc les choses. C'est un complément. Quel est un petit peu votre vision, on va dire plus globale, pas sur Aquanor, mais sur l'aquaculture.
L'aquaculture, alors c'est 47 millions de tonnes par an contre 84 millions de tonnes de poissons pêchés. Mais dans ces poissons pêchés, il y a 24 millions de tonnes qui sont transformées en huile et en farine animale pour nourrir ces 47 millions de tonnes de poissons élevés. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, dans le monde occidental, contrairement au monde asiatique, on a fait le choix d'élever des carnivores. C'est comme si les agriculteurs du néolithique avaient fait le choix d'élever des loups plutôt que des vaches. Oui. Si vous élevez une vache, il faut 1 hectare par vache. Si vous élevez un loup, il lui faut au moins 10 vaches. Donc 10 hectares, vous voyez tout de suite la différence. D'emprise sur le milieu, c'est pareil. Pour nourrir un poisson carnivore, il faut d'autres poissons.
Est-ce qu'il y a de l'aquaculture végétale ?
Oui, dans les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques, en Thaïlande, en Chine, au Vietnam, on fait de l'aquaculture extensive dans les rivières, dans les zones humides. Ça se passe à peu près bien et il y a un coût, un rendement économique, énergétique à peu près intéressant. Pour les élevages de saumon, le rendement est de 2,5%. Quand vous calculez la masse d'énergie que vous avez investie, que ce soit la masse d'énergie investie dans le pétrole, dans le gasoil par exemple, pour le fonctionnement de l'aquaculture et ce que vous en sortez en termes de calories, vous n'avez qu'un rendement de 2,5%. C'est au niveau du rendement des cochons industriels.
Alors aujourd'hui, autre sujet mais qui est complémentaire, on sait que les animaux, les oiseaux, les végétaux, les virus remontent vers le nord. On sait aussi que la morue donc l'a fait parce que c'était trop chaud donc pour elle. Réchauffement climatique ou bien changement climatique et poissons ?
Changement climatique, oui, ça on le constate pour la morue depuis 92, là où on a fait le moratoire à Terre-Neuve, les poissons depuis ne se sont pas, les stocks de morue ne se sont pas reconstitués parce que l'eau est devenue trop froide. L'eau est devenue trop froide à l'ouest de l'Atlantique parce que l'eau est devenue trop chaude à l'est de l'Atlantique. Les deux sont liés. Donc le dérèglement climatique, oui, pousse les espèces vers le nord parce que les climats remontent vers le nord. Donc la morue remonte vers le nord. La morue de mer du Nord qu'on pêchait devant Dunkerque, on ne la pêche plus parce qu'elle remonte. Et elle s'accumule là en mer de Barents, tout en haut de l'Europe.
Et elle va chatouiller des sous-marins nucléaires russes. Quoi.
Oui, ceux qui ne sont pas pris dans les chalutiers.
C'est ça.
Voilà. Donc le réchauffement climatique, que ce soit sur le poisson ou autre, ne crée aucune situation. Il ne fait qu'amplifier l'existant. Donc quand il s'abat sur des écosystèmes, je parle bien d'écosystèmes déstabilisés par la surpêche d'une ou deux espèces, ne fait qu'accentuer le problème. Et notamment, il ne fait que... ça agit surtout, c'est pas tellement les espèces qui remontent, c'est la désynchronisation des espèces entre elles. Il y a des espèces qui sont liées, comme la morue, le hareng et le caplan par exemple. Et le réchauffement climatique va avoir tendance à les pousser vers le nord, mais à une vitesse un peu différente. Donc il y aura forcément une espèce qui se retrouvera avant les autres, avant celle dont elle est un peu... qu'elle mange par laquelle elle se fait manger. Et si en plus vous rajoutez là-dessus, au moment où ces espèces arrivent, des chaluts et en nombre trop nombreux, vous accélérez encore le problème. Là, le problème, c'est le nord de la mer du Nord, c'est la mer de Barents. Le réchauffement climatique est en train d'aggraver, on le sait, une surpêche qui a démarré il y a 10 ans. On n'a décidément rien compris. Et les stocks sont en train de s'effondrer.
Alors Frédéric Danhé, c'est vrai que le ton a été une espèce de superstar médiatique donc, ces derniers temps. Voyons maintenant quels sont les remèdes et l'avenir, parce que c'est une profession qui est belle, qui est indispensable. Il y a des familles, il y a des gens qui travaillent. On comprend très bien quelles sont aussi donc, les causes de désespoir. Et derrière, il y a du drame humain. Qu'est-ce que l'on peut voir pour éviter un nouveau silence de la mer ? Donc, vers quelle piste on pourrait aller ?
Il y a trois choses. La première, c'est, comme le demande la Cour des comptes européenne, par exemple, dans son rapport de novembre 2007, c'est simplement de faire respecter les réglementations qui ne sont pas respectées parce que personne n'a envie qu'elles soient respectées. Rarement un pêcheur français voit un inspecteur qui vérifie ce qu'il a pêché. Or, dans les quotas, il y a un élément qu'on prend toujours en compte, c'est les quantités débarquées. Mais ces quantités débarquées ne sont quasiment jamais pesées. Donc, au moins, faire respecter la réglementation. Deuxièmement, c'est créer non pas des grandes réserves marines à la française gigantesques comme le parc de Porquerolles, mais multiplier ce qu'on appelle les cantonnements de pêche, c'est-à-dire les endroits que les pêcheurs s'interdisent de pêcher pendant 5 à 10 ans et des endroits qu'on on artificialise un peu en coulant des récifs artificiels qui sont très favorables à la ponte des poissons. On pourrait d'ailleurs envisager de couler des chalutiers, ça aurait une valeur symbolique plutôt que de les voir cassés au fond d'un port, une fois qu'on les retire de la mer. Et puis la troisième solution, et on y va tout droit, et personne n'en parle assez curieusement, c'est la privatisation, qui dit pas son nom, mais la privatisation des quotas, c'est-à-dire que les quotas, c'est en discussion. C'est ce que font déjà les Américains, les Islandais, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Quand on parle de quotas, que l'on comprenne bien, Frédéric, c'est-à-dire que c'est une température, on va dire, qui va mesurer la fièvre, c'est une décision politique de gestion.
C'est une décision politique, c'est ça, hein, à partir de demandes scientifiques. Les quotas sont toujours 2 à 3 fois supérieurs à ce que réclament les scientifiques. Et là, les quotas, on va vers des quotas individuels, c'est-à-dire chaque pêcheur ou armateur ou coopérative de pêche aura un certain nombre de quotas à ne pas dépasser. Et si elle dépasse, elle sera obligée de racheter la part de quotas dépassée à une autre pêcherie, un autre pêcheur, un autre armateur qui, lui, aura pêché en dessous de son quota.
Parce qu'il y a échange ou vente de quotas.
Voilà, quota individuel transférable, comme pour les permis carbone. Donc ça, on y va tout droit. La seule discussion à avoir, c'est de savoir qui va gérer ça. Si c'est le marché, et seulement le marché, on sait très bien que vous voyez comment les marchés sont efficients. Ce seront les plus gros, ce sera Intermarché, le Crédit Maritime en France, qui détiendront tous les quotas et vous n'aurez plus que 3-4 ports. Parce que 15, 20, 300 ports, ce n'est pas très rentable.
Et donc les marins seront salariés de ces groupes-là.
Salariés, ou alors ils loueront des quotas. C'est ce qui s'est passé en Islande. En Islande, il n'y a plus que 100 propriétaires, 100 détenteurs de quotas. Il y a très peu de ports en Islande. Et il y a eu une paupérisation de la population de pêcheurs qui ne peut pas acheter les quotas. Ce sont des armateurs, des fonds de pension, ce sont des banquiers. À qui appartient la pêche? Et la plupart des pêcheurs en Islande louent leurs quotas pour un tarif. Ils se sont paupérisés. Et c'est vers ça qu'on va si l'État et l'Europe, en tout cas, ne fédèrent pas les quotas, c'est-à-dire ne se mettent pas de côté un certain nombre de quotas afin de pouvoir jouer sur le marché. Et si surtout les quotas sont attribués non pas à des acteurs économiques, à des personnes morales, mais à des coopératives. Là, on conserverait quand même un peu cet esprit de solidarité des gens de mer qui disparaîtra de toute façon s'ils refusent de voir la réalité de la privatisation, enfin c'est plutôt de la location des quotas, en tout cas de la personnalisation des quotas.
Bon, écoutez, en tout cas, c'est vrai que c'est vrai qu'on en parle peu, hein, de ça. Hein,
on n'en parle jamais. Et pourtant, Barnier, c'est ce dont il discute avec ses confrères européens à Bruxelles.
Bon. Frédéric Dan, et plus de poissons à la criée, menace sur les réserves mondiales. Je vous l'avais dit, hein, c'est pas de la langue de bois du tout, ça pose des problèmes. Et une fois de plus, on espère que ce métier va pouvoir durer, même si on se doute bien qu'il y a certains enfants qui ne feront pas le même métier que leur père. Tenez, c'est le moment, effectivement, on va aller prendre un petit bol de nature. Oui.
Le coup de cœur de CO2, mon amour.
Et notre coup de cœur cette semaine, c'est les 25 ans de la Salamandre, une formidable revue de nature avec son créateur, Julien Perrault, depuis la Suisse. Bonjour Julien Perrault.
Bonjour.
Alors, 25 ans donc de Salamandre, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Parce que vous avez commencé quand même drôlement jeune, vous.
Ben oui, c'est une grande histoire d'amour qui me relie à la nature. Et effectivement, en 1983, j'avais 11 ans. Ouais. Et puis, je me promenais autour de chez moi. J'allais voir les petites fleurs, les petits oiseaux, toutes les bêtes que je pouvais découvrir. Et puis, j'ai développé cette passion de la nature. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas très drôle de garder ça pour moi et que j'avais envie de partager cet intérêt pour tout ce qui vit autour de chez nous. Mmh. Donc, j'ai créé mon petit journal dans mon coin, tout seul, à l'âge de 11 ans. Et voilà, ben, ça fait 25 ans. Et maintenant, la Salamandre est toujours là. Elle a 27 000 abonnés en Suisse et en France. Et puis c'est devenu une revue adulte.
Et c'est vraiment une véritable revue de référence pour tout le monde. Julien Perrault, donc, dans le dernier numéro, c'est un bilan. Comment la nature donc, a évolué et surtout comment nous avons cette perception qui a évolué également?
Ben oui, parce qu'en fait, en 25 ans, pendant que la salamandre grandissait, il s'est passé évidemment plein de choses. La destruction de la nature s'est poursuivie, aussi bien, je dirais, à l'échelle planétaire que tout autour de chez nous, plus insidieusement. Donc on parle de ça, on donne plein d'exemples d'espèces, d'animaux, de plantes, même des espèces toutes simples, toutes banales, qui disparaissent sans qu'on s'en rende compte. Donc les nouvelles, je dirais, de ce côté-là, au niveau de la biodiversité, sont plutôt mauvaises, en Suisse comme en France. Mmh. Et puis en même temps, on constate, qu'est-ce qu'on voit tout autour de nous? C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de tous ces problèmes de nature, d'environnement, qu'il y a des initiatives personnelles qui se multiplient, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent, qui changent leur comportement, qui ont envie de participer à un véritable changement. Et moi, j'ai l'espoir qu'on soit véritablement au début d'un changement de société, parce que de toute façon, on se rend bien compte que si on continue à vivre contre la nature, ça nous mène droit contre le mur.
On est dans des sociétés, vous l'avez très bien pointé, qui sont des sociétés hors sol, comme on dit assez fréquemment dans cette émission. Beaucoup de personnes sont des urbains. 50% de la population aujourd'hui est urbaine. Elle va passer très vite à 60 et 70%. Et donc, ça ne facilite pas forcément les choses, même si on peut parler aussi de nature ordinaire en ville.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que ça, c'est vraiment le credo de la Salamandre, c'est de faire découvrir à tous nos lecteurs, qu'ils habitent en ville ou à la campagne, les manifestations, je dirais, presque les plus modestes de la nature. Je crois qu'on peut vraiment s'émerveiller devant un simple papillon, devant un pissenlit, devant une hirondelle qui va revenir tout à coup au printemps. Et ça, c'est des miracles qui peuvent véritablement nous reconnecter avec les saisons, avec la nature, avec quelque chose de profondément beau, et puis quelque chose finalement qui nous fait du bien, qui nous nourrit, pas seulement avec des choses à manger, avec de l'eau, avec de l'air, mais qui nous nourrit vraiment profondément, spirituellement.
Il y a toute cette part de rêve, et puis aussi que les créateurs donc, mettent en mouvement, parce que les premiers créateurs ont été inspirés directement par la nature.
Ben bien sûr, c'est clair qu'évidemment, quand on va se promener, par exemple, dans la grotte de Lascaux, bon, on ne peut plus le faire maintenant, mais c'est complètement fou. On se rend compte qu'il y a là tout un bestiaire qui a une valeur symbolique très forte, et on se rend compte que ces gens-là, ils vivaient véritablement en équilibre et en osmose avec la nature. C'est encore le cas de quelques peuples par-ci, par-là sur Terre, mais c'est vrai que nous, on est dans une toute autre logique, où finalement, l'homme est au-dessus de la nature, et il l'a servi, il l'a détruit, il la canalise, il la formate, et on se rend compte vraiment que c'est la catastrophe. Mais de nouveau, moi je crois c'est un peu le constat qu'on a dressé dans ce numéro spécial là, qu'on a aussi très, très richement illustré, dans lequel on a abordé plus d'une centaine de thèmes différents. Il y a vraiment un espoir, il y a vraiment un changement qui est en train de se produire, et nous ça nous rend optimistes, ça nous donne envie de nous lever le matin, d'y croire, et puis de continuer à faire des belles salamandres pour nos lecteurs, parce que je crois que ça peut être un chemin pour justement se réconcilier avec la nature.
Et l'homme va enfin comprendre qu'il n'est pas donc supérieur à cette nature, ce qu'il fait à peu près depuis 2 siècles, et que l'on comprend parce qu'on a eu des aspects historiques et culturels qui l'ont ramené à faire cela, mais d'être vraiment dans cette nature, d'être un élément, mais pas forcément celui qui est au sommet de la pyramide.
Oui, vous avez dit 2 siècles, c'est vrai qu'il y a la révolution industrielle qui a accéléré beaucoup de choses, mais je crois que les racines de cette cassures sont plus profondes, hein, parce que notre civilisation, notre société, elle est imprégnée des valeurs, d'une part des philosophes grecs, d'autre part évidemment du monothéisme juif, et puis après évidemment de la chrétienté. Et ces trois univers spirituels, pour eux, il y a vraiment l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Et là, on n'a peut-être pas eu de chance, parce que c'est cette société-là qui a gagné et qui est aujourd'hui la nôtre. Hein. Je ne la renie pas du tout, mais je constate qu'il y a vraiment là une cassure qu'on ne retrouve pas dans certaines autres cultures.
Alors, je vous renvoie donc à ce numéro de la Salamandre, et puis aussi à votre site www.salamandre.net. Encore bon anniversaire, hein, avec votre festival, et à très bientôt, Julien Perrault. Au revoir.
Au revoir, Denis.
Fin de cette émission, vous l'avez compris, avec nos remerciements à Serge Viguier et Christophe Papon à la technique, à Sophie Ledoré pour son reportage et son assistanat, et Jean-Christophe Pinaza, Maïté Adam qui réalisait cette émission. La semaine prochaine, on va essayer de refaire le monde plutôt que de le défaire. Dans le sud, au soleil de Calvi, en direct du Festival du Vent, il y aura Yann Arthus Bertrand, que je ne présente pas, sûrement Geneviève Ferronne, directeur de WWF Serge Roux, un petit reportage du côté des Agriates, et puis encore d'autres choses que nous allons construire au cours de la semaine.